Ici Jean-Dominique Leduc
et Marc Tessier. Bienvenue à Entre deux cases, édition Angoulême 2025.
Avec cette série de balados spéciales, nous vous proposons, Marc et moi, des entrevues avec différentes participantes et différents participants de la délégation québécoise, réalisées sur place, comme si vous y étiez. Jimmy Beaulieu, salut!
Salut Jean-Dominique, salut Marc!
Salut Jimmy!
Salut Demi-Marc! Ah non, il était là au complet. Là. OK, complet, merci. À moitié.
Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps, Jimmy. Bien que tu ne seras pas de la présente délégation québécoise et loin de moi l'envie de tourner le fer dans la plaie, on tenait quand même, Marc et moi, à te parler parce que tu as quand même un lien particulier avec le festival et la ville d'Angoulême. Et c'est un peu de ça dont je voulais qu'on parle ensemble aujourd'hui.
Ben volontiers, je suis là pour ça. Ben oui, il a été question que j'y aille pendant longtemps, sauf que toujours pas de réponse de la bourse demandée. Donc, oui, il commence à être un peu tard. Donc, effectivement, j'irai pas. Mais oui, allons-y.
En fait, si j'avais les droits, probablement que là, je libérerais la chanson de Europe. Ouais. C'est vraiment dommage, Jimmy. Mais bon, bref, à défaut d'y être physiquement, on t'invite virtuellement. Et donc, quand je dis que tu es intimement lié au Festival d'Angoulême, et je tiens à revenir sur cette période-là, c'est qu'en 2001, avec cinq autres auteurs, tu lances la structure Mécanique Générale, puisque tu souhaites arriver en 2001 avec quelque chose entre les mains. Est-ce que je me trompe?
Non, tu ne tombes pas. C'est janvier 2001. Donc, en tout cas, avant ça, il y avait Quelques Plures qui est sorti en 2000
Oui.
avec le logo Mécanique Générale, mais je pensais vraiment que c'était comme un one-off. Puis après, j'avais cette pression-là parce que j'avais des amis qui avaient été avec la délégation québécoise en 2000 à Angoulême qui me disaient, faut absolument que tu viennes, faut absolument que tu viennes. C'est vraiment ta vibe, tout ça. Puis, je n'étais pas allé cette fois-là parce que je gardais la librairie où je travaillais alors que toutes les autres y avaient été. Donc, j'ai dit, OK, ben on peut y aller, mais si on y va, il faut qu'on ait quelque chose à montrer. T'sais, je ne veux pas être là spectateur. Je voudrais qu'on ait une espèce de petite carte de visite fraîche. Fait que j'ai ressorti mon logo Mécanique Générale qui avait à ce moment-là 3-4 mois. Puis, j'ai dit avec les deux personnes avec qui je comptais y aller, puis d'autres gens qui étaient très proches de moi, faisons un petit collectif pour avoir de quoi juste à déposer sur la table, faire du PR. Enfin, j'avais encore. J'étais encore carriériste dans ce temps-là, je n'avais pas encore tout abandonné. Puis, c'est de là qu'est né Mécanique Générale, puis aussi, c'est de là qu'est né ce réflexe-là de toujours se servir d'événements pour faire de la bande dessinée, pour faire du nouveau matériel, toujours. Il y a un festival de Québec qui arrive, bon, ben écoute, on fait une histoire, on fait quelque chose. C'était comme une espèce de dialogue entretenu avec les événements depuis le début, comme juste une date de tombée pour te faire avancer.
C'est un dialogue que tu entretiens toujours, notamment avec la structure Colosse.
Oui, absolument, c'est ça. C'est vraiment, tu sais, on n'est pas dupes, on ne vend pas assez pour que ce soit une opération commerciale. C'est vraiment une opération pour faire avancer, tu sais, sinon les années passent, puis on n'a rien foutu, puis c'est ça. Donc, justement, servir de. Puis pour les événements, c'est cool aussi, parce qu'ils ont toujours des publications fraîches, puis des auteurs qui participent à faire l'événement aussi, hein, des auteurs, des autrices.
Alors, en 2001, tu es donc du voyage. Est-ce que l'équipe qui fait partie à l'origine de Mécanique Générale et qui était du collectif Avons-nous les bons pneus? Et donc là, il est question de Philippe Gérard, de Lev Tendre, de Benoît Joly, de Luc Giard et de Sébastien Trahan. Est-ce qu'ils étaient tous présents avec toi à Angoulême?
Cette première année-là, non. Ben, Luc Giard, Benoît Joly, ça aurait été compliqué de les faire voyager, mais je pense que les trois qui étaient là cette année-là, c'était Sébastien Trahan, moi, puis Lev Tendre. Donc, Philippe est allé plusieurs fois aussi, en tout cas des fois ensemble, des fois pas ensemble. Donc, pendant cette période-là, en tout cas, on y était pas mal toujours. C'était une étape très importante.
Et la réponse à Angoulême, là, face à votre collectif, Avons-nous les bons pneus, ça s'est passé comment en fait?
Ben, ça s'est passé qu'on s'est fait des amis qui tiennent encore aujourd'hui, puis des amis vraiment des espèces de frères et sœurs d'armes, hein, tu sais, des gens comme Nilsson, Dominique Goblet. Ou... Moi, quand j'arrive à Angoulême, la première personne que je vais voir, c'est Nilsson, toujours. Tu sais, c'est beaucoup plus dans les petites structures qu'on a fait des contacts avec. Voyons, le Facochère à l'époque. En tout cas, il y avait un paquet de petits éditeurs qui sont devenus plus grands dans certains cas, qui sont restés petits avec de l'intégrité dans d'autres. C'est ça, donc ça, on est devenus des joueurs qui existaient dans les premières années avec Mécanique Générale, puis même avec Colosse, j'y allais toutes les années pendant un certain temps. Ça coûtait pas si cher. Ça coûtait quelques centaines d'euros avoir un stand, puis on rentrait dans notre argent. Donc, il y a vraiment eu des stands colosses pendant, je sais pas, 3-4 ans, 5 ans. Il faudrait que je revérifie les factures pour voir quelle année exactement, là. Mais c'est ça, puis ben, je sais pas, ça existait, puis ça faisait partie du paysage, du fanzina, puis de l'espèce de fièvre enthousiaste qu'il y a aussi à cette échelle-là, qu'on perd quand on est rendu. La plupart des années, j'allais même pas dans la grosse tente avec les éditions Soleil, Delcourt, tout ça. Je mettais pas les pieds là, t'sais, j'en avais rien à calisser. Pour moi, le festival, c'était l'espace Nouveau Monde, la bulle New York, là. C'est
Ouais.
comme, c'est
Mais
la
c'est
seule.
dommage. C'est dommage, Jimmy, parce que moi, je me souviens en 2005, la première fois que je suis allé, d'ailleurs, tu étais là,
Ouais.
tu étais présent en 2005, quand je suis allé, parce qu'il fallait absolument que j'éprouve ma soif de curiosité. J'étais allé dans la bulle et au stand soleil, il y avait des filles en bikini avec des épées et il y avait un truc de feu derrière.
Ouais.
Et bon, je cherchais le lien avec la bande dessinée autre qu'un lien consumériste, mais il n'en demeure pas moins que c'est le seul show de feu et de glaive que j'ai vu de ma vie, là.
Oui, parce que
Ben.
moi, il mettait de la musique heavy metal tellement fort que tu n'entendais rien. Puis je me disais, comment les gens peuvent rester là? C'est insupportable.
Ben,
Puis
quand je fais de la.
c'est ça, l'année de
Hein?
Julie, là, je suis allé dans la bulle pour rencontrer Boquet. Puis il y avait tellement de monde, c'est comme l'heure de pointe du métro à Montréal à 5 h quand tu essaies de te squeezer. C'était, je sais pas comment les gens font. La bulle du Nouveau Monde forever.
Mais la face, c'est que quand je lis une bande dessinée de soleil, la plupart du temps, je trouve ça très cohérent avec ce que vous me décrivez. Je trouve que ça fit complètement.
Ben,
Je ne
pour peu qu'on
m'étendrai
aime.
pas
Non, non,
là-dessus.
non, évidemment, le but, ce n'est pas de t'amener dans le scandale. De toute façon, en soi, Angoulême a toujours une espèce d'aura de scandale et là, ce n'est pas le propos. Est-ce que tu dirais aussi, Jimmy, que tes présences répétées au Festival d'Angoulême ont grandement contribué à un réseautage avec des éditeurs européens? Parce que quand même, tu as été relativement rapidement édité en Europe. Je pense à Ego Comics dans
La revue, oui.
la revue, ouais. Est-ce que
Ouais, il y a
donc,
plusieurs
c'est...
fanzines, Stereos Comics aussi. En tout cas, il y a eu quelques fanzines qui m'ont accueilli. Oui, on ne voyait pas ça tant que ça comme du réseautage, là. C'était vraiment une question d'exister. Puis de. T'sais, j'ai toujours eu une relation ambivalente avec le fait d'être publié en Europe. J'ai toujours tenu à ce qu'on fasse notre truc ici. T'sais. Puis le seul bouquin que j'ai publié seulement en Europe, c'est Comédie sentimentale pornographique. Puis à ce jour, je me demande si on n'aurait pas mieux fait de faire une édition pour le Québec et une édition pour la France, là. J'ai toujours vu ça comme
Il y a À la
des
faveur de la
choses
nuit
à.
aussi, il y a Jimmy, il y a À la faveur de la nuit aussi qui
Ah,
était.
c'est vrai, t'as raison.
Oui,
T'as
oui,
raison.
oui.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
C'est ça. Donc,
Mais revenons à
oui.
comédie
Hein?
pornographique. Quand tu dis que tu as aimé ça faire une édition québécoise, c'est parce que tu m'avais dit que les libraires avaient peur de mettre ça sur leur tablette à cause du titre. Fait que
Ouais.
c'est quoi, tu voulais, t'aurais proposé quelque chose d'autre, un autre titre, ou comment tu penses que ça aurait été
Non, non,
différent?
non, c'est juste parce que c'est juste une question d'économique, c'est-à-dire que on perd tellement de cash en importation de nos propres livres, c'est complètement débile. T'sais, moi, ce livre-là, il vaut 40$. À chaque fois que j'en vends un, moi, je perds 2$, mon voisin perd 6$ à peu près. T'sais, parce que le livre coûte 25 euros en Europe, il coûte 40$ ici. Si vous faites la conversion, il y a comme une tabelle de plus qui est due à l'importation. Puis moi, je fais mes droits d'auteur sur le 25 euros. Je ne fais pas mes droits d'auteur sur le 40$, tu sais.
OK.
Si vous comprenez, là,
Oui.
le cash d'importation, exportation, C'est stupide de perdre ça. C'est vraiment, tu sais, on a du papier, on a des maisons d'édition, on a, tu sais, genre, hey, j'ai décroché un contrat en Europe. Oui, d'accord, mais quand tu vends ton propre livre sur ton territoire ici, tu perds du cash, puis ton voisin qui t'achète ton livre, il perd du cash aussi. Ça, c'est vraiment pas écolo non plus, tu sais, de perdre tout ça. Donc, puis aussi, ça fait un peu coloniser là, de dire comme oh, j'ai publié en Europe. Je sais pas. Moi, je trouve que vraiment construire quelque chose ici qui nous appartient en parallèle avec publié en Europe, puis la plupart de mes bouquins ont été faits comme ça. Il y a une version pour les deux. Ben, ça veut dire que oui, OK, je fais ma carrière, mais ce cash-là de bateau puis de douane absurde, je préfère que ce soit dans nos poches ou que tu sais, ce soit que le livre soit défendu par un éditeur qui est sur le territoire aussi. On s'égare peut-être un peu du sujet, mais c'est des choses qui me sont très à cœur.
Ben, en fait, non, on ne s'égare pas du tout parce que quand tu parles de présence du territoire, encore là, ton lien à la ville d'Angoulême, quand on pense notamment
Un projet domicilié.
à ta résidence de 8 mois, de
Oui.
plusieurs mois en fait, à Angoulême en 2004, dont a résulté le récit. Du projet domiciliaire que tu as exclusivement publié en ligne.
Ouais, j'ai toujours le vague projet de le publier papier, mais à chaque fois que je le feuille, je fais comme ouf, ça presse pas. Donc
Alors,
oui,
moi,
termine ta
j'ai deux
question.
questions à poser par rapport à ça, Jimmy. Premièrement, et peut-être c'est pour le bénéfice des auditrices, des auditeurs, la ville d'Angoulême, c'est une ville de quoi? À peu près 25 000 habitants environ?
Je sais pas, j'avais lu que c'était la même affaire que Québec, 70 000.
Ah bon, OK, 70 000. Bon. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le festival, là, c'est un tsunami, là, c'est 200, 250 000 personnes. Donc, le fait d'avoir vécu à Angoulême, en résidence, hors de la période du festival, j'imagine que t'as développé un tout autre rapport face à cette ville-là et à ses institutions.
Ben oui, premièrement, c'est vraiment le fun parce que c'est normal d'être auteur de bande dessinée dans cette ville-là. Fait que quand j'ouvre un compte en banque, puis je dis auteur de bande dessinée, ils me regardent pas comme mon Dieu, appelez la police, que c'est ça. T'sais, pour eux autres, il faut juste écrire auteur de bande dessinée dans le formulaire. C'est rien de très extraterrestre. J'ai beaucoup aimé cette conformité-là. C'est un espèce de X-ville. Je ne sais pas si vous avez lu le livre
Oui.
X-ville de Dylan O'Rourke, tu sais.
Oui.
C'est-à-dire que là, ben, la bande dessinée est respectée. C'est un art célébré. C'est un art qui a sa juste place dans le panthéon des arts. C'est assez drôle. Puis, tu sais, le musée de la bande dessinée puis l'école sont ouvertes à l'année. Fait qu'il y a toujours quand même accès à des expos, des originaux assez intéressants, et toujours des causeries à la librairie du musée. Fait qu'il y a vraiment un truc dans le temps. Angoulême, si tu veux, au-delà du festival, comme une espèce de pôle de l'image. Pour pas
Et
reprendre.
ce qu'on n'a jamais réussi ici au Québec à ce jour, c'est-à-dire que un des défis des différents événements, au-delà de se pérenniser eux-mêmes, c'est de proposer vraiment une programmation, des activités, un environnement à l'année.
Oui, ben, je pense que tout ça se développe tranquillement, pas vite, mais je sais pas, moi, je trouve que les choses ont changé quand même beaucoup depuis 2000. Je trouve quand même que c'est ça, nos livres sont lus, sont appréciés, on fait partie du paysage culturel. Je pense que ça a été plus vite que ce que j'imaginais parce que quand on a commencé, les gens lisaient pas de bande dessinée, méprisaient la bande dessinée. Ils étaient même pas au courant si on parlait de bande dessinée alternative ou pour adultes. Il y avait des images qui étaient complètement loufoques, t'sais. Je trouve que ça a quand même vraiment été très bien, très vite. Il n'y a pas encore de cash relié à ça, mais au niveau de la présence. Je veux dire, vraiment dans la vie des gens, tu vas d'un appartement du chum, de la blonde, de machin, puis tu dis, ah, tiens, il y a deux, trois livres de Rabagliati, de Catherine Oslo, de Julie Delporte, tu sais, puis ça fait juste partie de la vie des gens maintenant. Puis ça a été plus vite que toutes mes plus vives espérances. Maintenant, après ça, on peut toujours rêver de mieux. C'est un peu pour ça qu'on continue, puis c'est pour ça qu'on continue à faire du travail comme tu fais, comme ce que Marc fait, puis tout ça. C'est d'essayer de vraiment montrer que c'est spécial. Puis comme tu en parles à chaque fois qu'un auteur ou une autrice disparaît, la réaction des médias est toujours comme une mollesse, un petit peu triste. Fait que, tu sais, c'est ça, il y a encore du chemin à faire, mais je sais pas, moi, je suis vraiment vers à moitié plein avec ça. Je suis impressionné que nos livres soient lus puis compris par assez de monde. Des fois, c'est 1500, 2000 personnes, mais c'est beaucoup. Quand on a lancé le premier Spoutnik, on avait vendu 100 puis on était content.
Oui,
T'sais.
les temps ont bien changé. Puis,
Ouais.
je veux dire, tu as été. Ben, quand même, Marc.
Moi, je trouve qu'il y a des retours des fois de choses que. Parce que moi, ça fait plus longtemps que j'en fais que toi. Puis la bataille, quand j'ai commencé, c'était juste exister. Puis parce qu'on se battait contre une volonté de colonisation, de répéter le succès commercial qu'on voyait en France ou en Belgique. Puis aujourd'hui, ben, je trouve qu'il y a une volonté de rentabiliser la bande dessinée pour attirer le plus en plus de gens possible. Pour moi, c'est une erreur d'aller dans cette voie-là. C'est plutôt de célébrer les auteurs, les visions uniques, ce qui fait que la bande dessinée québécoise a été vivante, elle a débloqué les frontières. C'est vraiment les auteurs et les autrices qui font des choses individuelles sans qu'on pense à faire de l'argent, faire un médium, tu sais, commercial, commercialiser ça. Pour que, tu sais, fait que c'est, là, et puis des fois, je vois une petite volonté de retourner vers ça, puis ça me gosse un petit peu, là. Mais parenthèse.
Ben non, mais c'est l'inflation, là. C'est comme, tu sais, je parlais avec Luc Bossé de Papard qui me disait que les prix d'impression ont doublé, puis le pouvoir d'achat des gens a réduit drastiquement. On l'a senti au dernier exposé. En tout cas, je sais pas, on est plusieurs à avoir fait comme, ah, tiens, regardons ça, on vend à peu près un huitième de ce qu'on vend d'habitude, tu sais, fait que.
D'ailleurs, tu sais que Luc a dû augmenter les prix de plusieurs de ses livres qu'il a réimprimés, là.
Ben, ben, effectivement, il n'y a pas trop le choix. Puis, ben, c'est ça, les gens ont de moins en moins, tu sais, juste, moi, les billets de concert l'année passée, j'étais allé voir, je sais pas, 25 concerts parce que j'y pensais pas. Puis là, cette année, j'ai ouvert comme 8 onglets hier, puis j'ai dit, lequel je vais voir, tu sais, je peux m'en permettre un peut-être, là, tu sais, l'inflation, c'est assez débile quand tu fais un truc culturel, hypersensible, tout ça. Puis moi, je peux pas jouer d'autres games que l'hypersensibilité. Là, j'ai 50 ans, c'est comme, je peux pas faire autre chose que des trucs rêveurs. Puis je pourrais pas faire un agent-genre, là. C'est
Non.
pas ça, là.
Quoique, moi, je serais très, très curieux. Un
Ouais.
projet de réinterprétation en une planche de l'Agent-Jean par une vingtaine d'autrices et d'auteurs. Je serais très, très curieux de voir la réinterprétation de Ginny Beaulieu.
En une planche, je serais très game. En une planche, je serais très game. Mais c'est ça, je ne peux pas compter sur ça pour payer le loyer. Puis ça, ce n'est pas une bonne stratégie, anyway. Comme disait Marc, essayer de faire des trucs qui ressemblent aux succès commerciaux d'ailleurs, ça ne nous a jamais réussi. Ça n'a jamais réussi à personne.
Jamais.
Hein?
Ça n'a jamais réussi. Puis en même temps, est-ce que l'agent Jean a besoin de plus de promotion? T'sais, je disais, t'sais, réinterprétation d'une nouvelle Jimmy Beaulieu, peut-être c'est plus intéressant que faire l'agent Jean.
Oui, mais là, tu es dans une. Oui, mais là, tu
Ouais.
tombes dans des considérations commerciales et marchandes.
Ouais.
C'est sûr que l'éditeur de l'agent Jean ne va pas se dire OK, là, on en vend, fait qu'on arrête de faire de la promo, puis on arrête tout ça. Au contraire, ils ont une locomotive. Donc, je pense aussi, et je ne sais pas si tu es d'accord, Jimmy, tu as quand même été à la tête de Mécanique Générale pendant de nombreuses années. C'est une espèce de chimère, là, la locomotive, mais tu sais, on ne se cachera pas qu'il y a plusieurs éditeurs qui rêvent d'avoir un Alexa ou un Michel Rabaglietti dans leur catalogue, là.
Ben, là, voyons, tout le monde voudrait pouvoir faire les livres qu'ils veulent sans angoisser.
Oui, voilà.
Des situations comme ce que le bossé me parlait de l'impression qu'il double de prix tout d'un coup, post-pandémique, c'est quand même des situations angoissantes. Tu veux survivre, tu veux continuer Fait que oui, effectivement, avoir des titres qui te rassurent, qui t'enlèvent de l'anxiété, ça doit faire du bien, mais il n'y a personne. Il n'y a personne qui fait ça pour ça, ou en tout cas personne que je connais qui fait ça pour ça. Peut-être que des vrais gros éditeurs, ils pensent dans ce sens-là. Mais Tout le monde que je connais, on fait des livres qui pensent dans l'autre sens. C'est comme, ah, si c'est lu, si on vend 3 000, 4 000, 5 000 exemplaires, c'est vraiment le fun, mais on ne l'a pas fait en pensant à ça du tout. On l'a fait en pensant de mettre de la beauté dans le monde, puis s'exprimer, puis that's
Yes.
Oui, parce
it.
que Dieu sait que plus que jamais, le monde a besoin de beauté et de
Ouais.
douceur. Hein? Je pense que
Si,
peu
ouais.
importe où on loge, à quelle enseigne politique on loge, je pense que de toute manière, on vit plus que jamais dans un monde divisé. D'ailleurs, Jimmy, tu disais plus tôt que pour toi, le fait d'être édité en Europe, c'était pas une priorité. Or, ma question est la suivante. Retourner à Angoulême, si ce n'est pas tant dans le but, dans l'optique de réseauter, et outre le fait d'aller revoir des amis, toi, dans ton parcours, dans ton métier d'auteur de bande dessinée, dans ta carrière actuelle, qu'est-ce que ça représente aller à Angoulême? Qu'est-ce que tu en retires?
Excusez, maintenant.
Oui, maintenant, oui.
Maintenant, ce que j'en retire, c'est vraiment de juste de faire partie de mon monde. C'est vraiment
Oui.
de juste faire partie de ce métier-là, de cet univers-là, puis de continuer. Tu sais, un truc qui m'a été dit à mon tout premier voyage à Angoulême avec mes petits fanzines, c'est par Philippe Morin. Philippe Morin est un
PLG.
PLG, il m'a dit, ah, tu sais, le secret dans ce métier-là, c'est de durer. Tu sais. Puis, c'est vraiment ça, c'est vraiment parce que tu sais, je sais pas si vous avez lu le livre d'Adrienne Tominé, de Loneliness of the
Oui.
Distant Cartoonist. On mange de la humble pie 18 fois par jour, puis des pavés de humble pie énormes comme ça tout le temps. Je veux dire, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps humilié dans ce métier-là. Puis, ça fait juste du bien de se retrouver. Oh, c'est ça. Mais c'est très, très juste. Ça fait du bien de se retrouver ensemble à Angoulême. Puis aussi, tu sais, une chose que cette expérience-là a pu m'amener, que je peux partager, c'est que tous les marchés qui sont pas, mais les marchés en tout cas, les scènes qui sont pas la France, le Japon, puis les États-Unis, ça se ressemble. C'est que les trucs alternatifs sont plus populaires que les trucs qui essaient d'être populaires. Ça, c'est comme, tu sais, les trucs qui essayent de... Tu sais, tu parles de la bande dessinée suédoise, ivoirienne, tu sais, danoise, en tout cas, un peu partout, brésilienne, tu sais, il y a toujours des petites scènes alternatives vraiment vivaces comme la nôtre. Puis, il y a des choses qui essayent d'être commerciales, puis ça tourne un peu en rond, tu sais. Puis, les choses qui... Ces bouquins-là alternatifs, ça fait des auteurs qui, un peu comme nous, font partie de la, je sais pas, du milieu culturel, font partie, sont lus, sont respectés, ils font partie de la réflexion.
Il inspire aussi. C'est quelque
Ouais.
part des gens qui arrivent sur la scène, qui tombent sur ces livres-là, tes livres, Julie Doucet, qui trouvent par hasard un Valium, et ça donne des claques, puis après ça, ils disent, Asti, c'est fun, je veux faire des choses comme ça, tu sais. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est être capable de s'exprimer, d'avoir une voix distincte, puis s'exprimer, pas se faire perdre des réseaux sociaux, qu'on a toute la même bip, tu sais, en tout cas.
Oui, là, ça devient de plus en plus un défi. Ça devient de plus en plus un défi juste au niveau de garder sa tête, puis de le faire, puis d'être soi, puis tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de bruit, chose qui, en tout cas.
Puis je pense aussi que quand tu fais quelque chose d'intègre, fidèle à toi-même et que tu parles de sujets qui résonnent dans le cœur des Québécois, Québécoises, ben, des fois, ces livres-là, ben, ils vont au-delà des 100, 200, 300 copies, puis ils finissent par chercher, accrocher des gens. Puis je pense que des fois, il faut prendre des chances, il faut prendre des risques, il ne faut pas juste penser commercial, on a la formule. Ceux que j'ai rencontrés qui pensaient avoir la formule pour faire des succès commerciaux, ils sont plantés. Fait que, tu sais, s'il n'y a personne qui est devin et qui pense qu'il va trouver la manière de faire de l'argent, là.
Non, juste regarder l'histoire de la musique pop, toutes les plus gros hits au début, ça a commencé par des jokes stupides ou des on voulait essayer la nouvelle disquette ou on voulait faire Blue Monday de New Order. On voulait faire une tune. Pour faire un rappel, parce qu'il sait faire les rappels, puis il voulait juste faire une toune que tu payes sur le piton, puis ils disparaissent. T'sais. Ça a été le single qui est le plus vendu de tous les temps pendant quasiment 35 ans. C'est ça, c'est toujours des espèces d'accidents comme ça qui font des succès pertinents. C'est rarement genre, ouais, on va faire un money-making hit, ça, puis ça peut marcher dans une certaine mesure, mais c'est pas, ça fait souvent des feux de paille. En tout cas, puis anyway, c'est pas des bons buts. Tu rêves pas de faire de la bande dessinée parce que tu veux t'acheter un bateau, là. Tu rêves de faire de la bande dessinée parce que tu veux partager ce que tu penses, tu veux partager ton sens de la beauté, tu veux écouter aussi, tu veux, tu sais, justement, j'ai parlé de Nissot quelques fois depuis parce que je viens de lire son plus récent livre, Les Julies, puis c'est un des plus beaux livres que j'ai lu de ma vie. Je pleurais tout le long, c'est extrêmement émouvant. Mais ce partage-là, toutes les conversations que j'ai eues dans ma vie n'ont pas atteint ce niveau de partage-là. Il y a quelque chose de magique avec le dessin qui dépasse tout ce que le langage humain a pu créer au niveau de la connexion puis du partage. C'est vraiment ce mot-là, le partage. Puis c'est ça qu'on cherche et c'est ça que je cherche, mais j'ai pas mal l'impression que quand tu prends de ton temps pour mettre des petits dessins dans des bulles, puis dans des cases avec des bulles, puis tout ça, c'est vraiment ça que tu cherches à exister sur un niveau que le langage n'est pas capable d'atteindre. Puis si tu peux faire assez de cash pour continuer à le faire puis pas trop te mettre dans la marde, comme je suis un mauvais exemple en ce moment parce que je ne fais pas Angoulême parce que je manque de cash. Mais c'est ça, c'est... Ouais, mieux qu'on peut espérer, c'est que ça permette de nous...
Ben, ça crée un espace intime avec le lecteur. Mais moi, je te dirais, oui, la bande dessinée, c'est fort, mais les livres aussi, ça crée un espèce d'espace intime qui permet, tu sais, des grands écrivains, ils vont imaginer, ils te font voir des images. Fait que c'est ça qui est intéressant. Puis c'est ça, des fois, qui propulse des gens comme nous autres à faire de la bande dessinée parce qu'on voit des images, puis nous autres, on est capable de les réaliser, puis mettre des mots avec ça, puis créer un espace où le lecteur se sent avec l'auteur, il touche des affaires, des émotions qui sont véridiques. Puis ça, c'est super important pour façonner une identité, puis quelque chose qui réunit les gens, là, mais quelque chose de sain. Tu
Ben,
parlais
c'est
de
ça.
partage il y a quelques instants, Jimmy, et j'ai l'impression aussi qu'au niveau du partage, il y a un lien à faire avec ton séjour en tant que résident à la maison des auteurs d'Angoulême, puisque tu as partagé ton espace avec Fabrice Snot et Xavier Mussa. En relisant ton projet domiciliaire, j'ai vraiment l'impression, et corrige-moi si je me trompe, que ça a été cette résidence-là et d'être au contact de ces auteurs-là. Je pense que ça a été un moment quand même assez important dans ta carrière, non?
Oh oui, ça a été majeur absolument parce que ben je suis quelqu'un de timide, je suis quelqu'un qui doute beaucoup. Puis avec eux autres, j'ai vraiment vu qu'on pouvait tu sais, camper dans ce qu'on a à dire, ça peut être solide, puis ça va nous permettre d'aller plus loin, d'avoir cette solidité-là, tu sais, d'avoir cette de pas toujours être en position d'écoute, de curiosité, peut-être comme, OK, là, c'est le moment où je fais mon truc. Il y a quelque chose de... Puis aussi, cette solidité-là n'empêche pas la sensibilité, n'empêche pas l'écoute, n'empêche pas... T'sais. Il y a comme un truc de posture artistique dont j'avais très peu d'exemples à ce moment-là au Québec. Là. Une espèce de validité intérieure, t'sais, alors que... Un truc en France que je ressens, c'est très abstrait ce que je veux dire là, mais c'est comme un peu plus normal d'être artiste qu'au Québec. T'sais. Au Québec, c'est quand même. Je veux dire, quand tu arrives à l'aéroport, tu vas dans le dépanneur, le Relay, puis il y a un étalage des prix Goncourt. T'sais. Dans les provisoires, tu n'as pas un étalage de collection Gallimard blanche dans les couches d'or. Fait que tu sais, il y a... Ici, ça fait moins partie de la vie d'être un artiste, de faire quelque chose de culturel. C'est encore un peu weirdo, tu sais. Un truc que je dis souvent, c'est que quand tu vas à l'épicerie, même les paquets de biscuits me disent que j'ai tort de faire de la bande dessinée. T'sais. On dirait que tout autour de moi, les poteaux, tout me dit que j'ai tort de faire de la bande dessinée ici, alors qu'en France, c'est comme, ah oh, oui, c'est ça que tu fais, good, tant mieux pour toi, good for you, tu sais. Il y a comme une espèce de validité, puis de le vivre au quotidien avec ces deux doudes-là qui représentent assez bien C'est bien ça, cette installation, disons, dans leur identité d'artiste, qui est pas comme, oh oui, c'est un hobby, c'est un hobby, c'est un hobby. Ici, c'est comme toujours comme, je sais pas, c'était vraiment épeurant dans ce temps-là. Ça l'est moins aujourd'hui, justement, on a fait du chemin, mais dans ce temps-là, c'était comme, oui, je fais de la bande dessinée. C'était dur à assumer.
Pour moi, il y a dans le projet domiciliaire, l'artiste que tu es, il y a une affirmation au niveau de ta pratique autobiographique, il y a une affirmation au niveau de ton approche du dessin, et là j'utilise les guillemets libidineux. Il y a aussi, on sent poindre le militant, on sent poindre l'homme qui réfléchit à son métier, qui réfléchit à ce que c'est la bande dessinée. Et donc, ultimement, aussi le pédagogue. Donc, j'ai l'impression vraiment que cette résidence-là était le catalyseur du Jimmy 2.0.
Pas tard, parce que ça a vraiment. C'est ça, ça a été une tempête de validation, puis de me faire voir que c'était possible. Puis, tu sais, la Maison des auteurs, j'avais ces deux Français-là à côté de moi, mais j'avais aussi tout le monde dans le reste de la maison qui venait de la Réunion, qui venait d'Espagne, qui venait d'Asie. Tu sais, on avait vraiment une diversité. Puis, il y avait Richard Maguire aussi qui était là, qui a fait Here, puis. C'est drôle parce que j'écoutais souvent, il faisait partie d'un groupe qui s'appelle Liquid Liquid que j'écoutais, que j'adorais, tu sais. Mais on n'a jamais parlé de musique parce que je ne savais pas qu'il était dans ce band-là pendant qu'on se parlait à tous les jours. Je l'ai appelé plus tard, j'ai fait comme, quoi, on aurait pu parler de la scène No Wave new-yorkaise ensemble. Bref, une autre parenthèse. Mais je ne sais pas, j'ai vu qu'il y a plein de monde qui était dans le même bateau que moi puis qu'on avait juste à tenir notre bout, faire notre trou. Puis, tu sais, durer, comme disait Philippe Morin, continuer, puis rester intègre, puis ça se pouvait que ça se passe bien.
Alors moi, tu sais ce que je nous souhaite, Jimmy. Je nous souhaite qu'un jour, et je le sais que les artistes sont généralement réticents à sortir leurs vieux travaux, mais pour avoir relu le projet domiciliaire, moi, j'aimerais bien que ce soit édité un jour. J'aimerais que les gens aient accès à ça parce que je trouve que c'est riche d'informations, parce qu'on voit un artiste se construire sous nos yeux, parce qu'on le voit s'interroger, parce qu'on le voit être une éponge, hein, parce que c'est ça un artiste au final. L'artiste absorbe les choses, puis il filtre. Voilà, donc voilà. Moi, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Marc. J'espère que oui.
Ben, moi, je trouve que des fois, j'entends beaucoup d'artistes qui ne devraient pas s'éditer eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas tout le temps les meilleurs par rapport à leur travail antécédent. Puis, il y en a plusieurs que je trouve c'est génial, ça devrait exister, mais les artistes ne veulent pas le faire parce qu'ils ont comme ils trouvent ça, c'est du vieux matériel, tout ça. Mais tu sais, avec le temps, des fois, c'est le fun de relire des choses avec le recul parce que là, on se rend compte, OK, c'est intéressant. C'est peut-être pas aussi pire que ça que je pensais, tu sais. Puis des fois, c'est ça, tu sais. Des fois, il faudrait qu'il y ait des éditeurs qui sortent ces choses-là, là. Puis que ce soit pas les auteurs, parce que les auteurs, des fois, non. Hey, let's go, Jimmy.
Non, mais c'est jamais jeté dans ma tête. C'est juste que je trouve ça, des fois, enfin, je veux dire, de mon point de vue, je le trouve un peu démodé, des fois. Tu sais, ça fait un peu. Mais en même temps, il y a des beaux dessins dedans.
Oui, puis je veux dire, ultimement, on est toujours les plus mauvais juges de notre travail. Voilà.
Peut-être on n'est pas tout le temps les meilleurs juges, pas les plus mauvais juges.
Ouais,
Oui, ben
ça
ça,
c'est.
c'est mon côté extrême.
Ouais.
Ouais, c'est ça, mais écoute, moi, j'ai pensé longtemps en faire un petit genre 200 exemplaires Colosse, puis that's it, au moins ça existe. Là. Puis ça se peut fort bien que ça existe un jour, mais ben, quoi que là, c'est ça. C'est le 20e anniversaire en ce moment. Mais donc,
C'est
je
vrai,
pourrais
déjà, ouais. Alors, ben, peut-être on pourrait se laisser là-dessus. Les festivités du 20e anniversaire, il y aura quoi au menu, Jimmy?
Rien. Okay.
Rien du tout. Le 20e anniversaire de Mécanique Générale est passé. Celui de Colosse 2002 est passé.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, je ne suis pas. Je suis pas quelqu'un qui organise des affaires dans même, mais oui, je sais pas. C'est comme si ça me tente pas de remanger de la humble pie en disant hey, on fête les 20 ans de Colosse, puis personne vient.
Non, mais là, c'est pas ça. Mais Jimmy, si on peut finir, tu sais, tout ce que j'entends, c'est que finalement, tes participations à Angoulême, ça a été tout du positif. Ça t'a permis de rencontrer d'autres personnes, d'échanger, de faire une résidence, tout ça. Fait que, tu sais, pour moi, il y a rien de négatif dans le fait d'aller en France, puis de rencontrer d'autres gens, puis s'ouvrir un petit peu à l'extérieur du Québec.
Ouais, en effet, non, c'est vraiment extrêmement positif. Puis franchement, le côté PR puis séduire des éditeurs puis tout ça, j'ai vraiment pas ça. Tu sais, je vais faire du gros name dropping. Je mangeais la semaine dernière avec Étienne Davodeau. Puis il m'a dit: Ah, mais c'est dommage, si tu viens à Angoulême, tu vas pouvoir rencontrer tel éditeur, je pourrais te présenter à tel machin. Puis j'ai dit: Oh man, j'en ai rien à foutre. Mon problème, c'est pas un problème de contact ou d'opportunité ou tout ça. Mon problème, c'est que j'ai pas le temps de travailler. J'ai pas, t'sais, pour survivre, j'accepte 78 000 contrats, puis j'ai pas le temps de faire de la bande dessinée. C'est ça mon problème, parce que une fois que tu as un bon bouquin, ah, allô, c'était là.
Oui, excuse-moi, là, elle demande de l'attention. Je suis désolé.
Oui, ben, je peux bien lui en donner. Hello! mais c'est ça, tu sais, je pense que ce serait pas mon objectif premier. Mon objectif premier, c'est vraiment d'aller là-bas. C'est vraiment pour défendre mon bouquin aussi. Tu sais, là, j'en ai des complexes. Ça n'a pas été, pas eu de vie en Europe à date. J'aurais aimé ça être là pour le défendre. Parce que c'est le meilleur livre que j'ai fait, d'assez loin, à mon avis. Mais pour l'instant, en Europe, il n'y a pas eu de vie. Fait que j'aurais aimé ça, aller être un bon parent pour ce livre-là, puis le défendre, tu sais. Puis c'est ça, faire partie du monde, faire partie de la scène. Puis c'est ça, si t'es à Angoulême, tu fais partie de ce monde-là. Si t'es pas à Angoulême, c'est comme, t'existes quelque part.
Ben écoute, Jimmy, on te souhaite d'y remédier le plus rapidement possible pour aller prendre soin de ton bébé parce que Jardin des Complexes, c'est un album formidable. Et je trouve que même ici, il n'a pas eu le rayonnement
Exactement.
qu'il méritait. Mais ça, c'est autre chose. Et c'est un point de vue que tu partages, n'est-ce pas,
Ouais,
Marc? Tu as intérêt? Donc.
on essaie, on fait notre mieux, puis le mieux que puisse faire, c'est de faire des bons livres. C'est ça qui est dur, c'est ça qui est un combat permanent, de trouver le temps de faire des bons livres.
C'est la grâce qu'on te souhaite et qu'on nous souhaite à nous aussi, puisqu'on est des fidèles lecteurs.
On vise toute la même chose,
Ouais.
Jimmy, puis
Oui, c'est ça.
on travaille, tu sais.
Exactement, exactement.
Ben, Jimmy Beaulieu, merci beaucoup d'être passé au balado.
Ben, merci de m'avoir invité, reçu avec autant d'égards.
Et tu as les salutations officielles de ma petite chienne Stella.
Ah, d'accord, je laisse.
Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre notre couverture du Festival Angoulême édition 2025, rendez-vous au jeandominiqueleduc.ca/tribune/catégorie/Angoulême-2025. Certes, c'est long, mais ça vaut le coup.